Un deuxième Christophe, maintenant Christophe Pécou, qui est maître de conférences contractuelles.
Contractuelle, je revendique.
Voilà. Bon,
voilà, et qui va nous parler de l'état de la scène punk en Normandie.
Donc bien, donc Christophe Pécou, hein. Donc rapidement, moi je viens donc de Staps, je suis comme Luc, je suis historien du sport à la base. Donc j'ai travaillé sur la notion de jeunesse encadrée par les activités sportives sous le pétainisme, donc la question de la résistance, tout ça, donc c'est des thèmes que j'ai étudiés. Donc pourquoi je me suis intéressé au punk? Parce que je suis aussi musicien depuis que j'ai 17 ans et que j'ai connu un petit peu la scène, on va dire, punk plus cannaise et lexovienne. Donc ça me permettait, voilà, de joindre la passion à la recherche scientifique. Donc moi, je vais vous faire un peu un état des lieux de tout mon travail depuis 2 ans maintenant. Donc je commencerai d'abord à vous montrer les différentes sources que j'ai pu consulter pour mener ce travail. Tout d'abord, c'est voilà, la période interrogée principalement, c'est celle de 76 à 90. Donc bien évidemment, je continuerai par la suite, mais voilà, je commençais de manière très chronologique. Donc une des premières sources que j'ai consultées, ce sont les archives de la presse régionale. Donc avec tous les différents périodiques régionaux, voire très locaux, que ce soit au niveau de la basse Normandie à l'époque et de la haute Normandie. Donc ça, pourquoi cette presse-là? Parce que ça permet quand même déjà d'avoir quelques infos sur les concerts qui ont été organisés, sur les noms des groupes, etc. Donc voilà, c'est une première source d'information. Autre source, ce sont les archives de la presse culturelle, puisqu'il y a une presse culturelle qui naît très rapidement, voilà, quelques titres. Et là, cette presse-là permet aussi d'affiner un peu les choses, puisqu'on va retrouver d'autres noms de groupes, par exemple, on va retrouver des lieux qui ne sont pas mentionnés dans la presse régionale, on va trouver par exemple des associations qui organisent des concerts, etc. Donc ça permet aussi de remonter un petit peu sur les différents protagonistes. J'ai pu aussi consulter quelques archives de MJC, puisque les MJC sont à l'origine les premiers lieux où vont être organisés les premiers concerts punk, en tout cas en Normandie. Donc il y a celle de Lisieux et il y a celle, surtout, je vous parlerai tout à l'heure, d'Hérouville-Saint-Clair, qui est dans la banlieue cannaise. J'ai pu consulter aussi les archives de télévisuel Alina à Lille. Donc les deux principales émissions, donc tout à l'heure je parlais, c'est Rockin' Chair, hein, présenté par Jean-Loup Janer, entre 82 et 89, et puis Décibel de nuit, qui est devenu Décibel par la suite, qui, elle, était présentée toujours par Jean-Loup Janer, mais qui proposait aussi un focus sur les différents groupes, on va dire, sur le territoire français. Donc, si vous visionnez ce type d'émission, on peut voir quelques reportages sur, par exemple, les Trotskids à Rennes, sur les groupes de KO en France, etc. Donc voilà, ça donne un aperçu de ce qu'a pu être cette deuxième vague, on va dire, à travers ces images. Voici les différents entretiens que j'ai menés, hein, avec des musiciens, principalement, de la première et de la deuxième vague punk. Donc vous voyez, autant des musiciens que des protagonistes qui officient dans les radios ou dans les MJC, des DJ qui passaient des disques punk dans les boîtes de nuit, etc. Donc voilà, bien évidemment, ça demande encore à être développé, mais bon, tout ça déjà, ça donne un aperçu un peu de ce qu'a pu être cette scène normande. Eh bien, quand on rencontre souvent les personnes, eh bien, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vous montrent leurs archives. Donc, les archives privées, alors là, photos, affiches, paroles, même, voilà, des sets de concerts, etc. Donc, c'est aussi tout ce travail qui est mené, c'est de récolter ces archives. On en parlera, voilà, cet après-midi. Mais voilà, bon, des fois, ils ont du mal à vous prêter les archives. Mais bon, maintenant, avec les téléphones, etc. Donc, ils gardent, comme je le dis souvent, les punks gardent beaucoup leurs archives. Alors, je sais pas pourquoi, mais une nostalgie ou... Mais, voilà, il y a beaucoup de choses à aller chercher, justement, chez les gens, qui sont gardés dans des vieilles malles au fond des placards. Hein. Et puis, je me suis aussi appuyé sur certains sites internet spécialisés qui essaient de recenser, qui font un travail de collecte d'archives. Alors, pour Le Havre, c'est Rockin' Le Havre, notamment. Pour Rouen, c'est Rouen l'Explosion Rock. Et pour Caen, c'est le site Les Tataves. Donc voilà, les trois sites Facebook où vous pouvez trouver un maximum de photos, où moi aussi je mets des photos ou des, voilà, des archives sur les sites. Alors, j'ai mis quelques sites vraiment spécialisés. La tête dans le cul, c'est vraiment sur Caen. Mémoire Neuve, c'est le site voilà, qui réédite tous les albums des groupes canets avec une biographie, etc. Il y a Rock et Folk en Basse-Normandie. Enfin voilà, il y a une multitude de sites sur lesquels je me suis appuyé. Et donc, à partir de tout ça, ça permet de comprendre un petit peu l'arrivée du punk en Normandie et de comprendre quels ont été ces canaux de diffusion dans un contexte bien évidemment particulier, économique, politique, culturel, que je ne vais pas développer parce que c'est trop long. Essayer de montrer aussi, comme on disait tout à l'heure avec Simon, c'est la question aussi des continuités, des ruptures historiques entre alors la première, la deuxième vague. Mais aussi, voilà, il y a des permanences. On parlait de magasins de disques, vous en parlez. On retrouve, première génération ou deuxième génération, toujours ce rôle des magasins de disques ou des salles, etc. Donc tout ça, ça permet de montrer comment s'est diffusé le punk sur la région normande. Et aussi, derrière, il y a la question aussi de la spécificité. Puisque j'en arrive à des hypothèses, c'est de dire que vraiment la Normandie, par rapport au reste des autres régions, il y a quand même une spécificité. Et l'une des spécificités que je vous parlerai rapidement, c'est la proximité avec l'Angleterre. Et ça, on le retrouve que ce soit dans la première, deuxième, voire troisième génération. Donc, les canaux de diffusion du punk. L'un des premiers canaux, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est le rôle des magasins de disques. Les principaux magasins de disques, donc là, à Rouen, vous avez Mélodie Massacre, qui est créé en 73. Au Havre, c'est Crazy Little Thing, donc qui est créé par Philippe Garnier dans les années 73, je crois. Et à Caen, c'est un petit magasin qui s'appelle Sweet Harmony. Donc ça, vraiment, ce sont les premiers magasins de la première, on va dire, de la première génération. Et donc, ces magasins vont diffuser auprès de des jeunes qui viennent fouiner dans les cartons, des groupes. Alors ça va être du garage 60, ça va être du pub rock, ça peut être du glam, etc. Puis aussi ça va être l'arrivée des premiers 45 tours punk. Donc leur rôle est vraiment de faire découvrir cette musique à des jeunes qui n'ont jamais entendu auparavant ce style de musique. Donc ils ont un rôle important dans on pourrait dire l'acculturation de cette jeunesse. Ils ont un rôle important, c'est qu'ils sont aussi producteurs. Ils vont produire quelques 45 tours. Mélodie Massacre, ça va être le 45 tours des Olivenstein et aussi des Dogs. Sweet Harmony à Caen, c'est le 45 tours de Bye Bye Turbin ou de Checkmate. Voilà. Donc voilà, ils ont un rôle de produire. Et ce qui sera encore le cas par la suite, par exemple, avec Alternative à Caen, qui produira, par exemple, 45 tours des Primitives ou d'autres groupes. Ces disquaires ont un rôle important de promotion aussi de concerts, parce qu'ils vont vendre les places, ils vont faire la promotion des différents concerts qui se passent. Donc voilà, on retrouve dans les 45 tours le Mélodie Massacre, etc. Donc un rôle de production qui permet aussi de diffuser cette musique. Alors bien évidemment, les tirages sont peu importants. 45 tours de Baba et Turbin, c'est 300 exemplaires. Mais bon, ça participe déjà à la diffusion de cette musique. Autre, alors là, une des spécificités, je trouve, normande, c'est que la Normandie, à partir de 71 et de 74, possède deux groupes phares. Voilà. Un qui est plutôt Little Bob Story depuis 71 et qui sera rejoint aussi par les Dogs de Rouen en 74. C'est-à-dire que Little Bob Story, lui, il écume toutes les salles, toutes les petites salles de Normandie, que ce soit les MJC, les salles des fêtes, les Docks au Havre. Et il y a un bon nombre de futurs musiciens punk qui ont commencé en voyant Little Bob, et ça leur donnait envie de créer ou de monter un groupe. Donc Little Bob Story a vraiment une influence importante dans la diffusion de ce... Alors c'est plutôt du pub rock, même lui se revendique plus ou moins du punk, mais sans l'être, mais il joue quand même au Marquis avec Dr. Feelgood, il est très copain avec Glenn Matlock, le bassiste des Sex Pistols, enfin vous voyez, donc il influence un certain nombre de musiciens, et ça va être le cas aussi avec les Dogs, qui vont aussi permettre à de jeunes groupes de jouer en première partie. Les Olivenstein feront les premières parties des Dogs. Et les Dogs feront aussi les premières parties de Little Bob Story. Donc vous voyez, tout ça, ça permet de créer un petit peu une émulation autour de ce nouveau genre de musique, pub rock, mais qui deviendra le punk rock. Donc voilà, ces groupes ont vraiment une influence majeure au niveau de territoire normand, puisqu'ils écument vraiment toutes les salles. Autre spécificité aussi, c'est les concerts punk qui ont lieu en Normandie. Les premiers concerts punk ont lieu au Havre. Le Havre, c'est, voilà, c'est l'Angleterre qui est en face. Et les groupes, quand ils arrivent au ferry, ils descendent au Havre et ils vont jouer au Havre. Donc, c'est avant le punk, c'est Dr. Feelgood qui vient jouer plusieurs fois. C'est le premier concert des Stranglers en 76. C'est les Ramones en 77 avec Talking Heads. C'est, donc là, c'est le Havre. Et sur Rouen, bah, le concert phare, hein, qui reste l'événement majeur, voilà, qui est raconté par tous les anciens, c'est le premier concert de Clash en France, qui a lieu le 25 avril 77, juste avant celui de Paris le lendemain. Et donc, ces différents concerts, hein, qui ont lieu dans des endroits, voilà, un peu improbables, c'est des salles qui ne sont pas forcément spécifiques à ce type de concert. Si alors, ce n'est pas non plus des concerts qui rassemblent des milliers de personnes. Hein. Clash à Rouen, c'est entre 250 et 300 personnes, à peu près. Hein. Les Ramones, voilà, c'est une centaine de personnes. Les Stranglers, c'est pareil, moi même pas. Donc voilà, mais ça permet aussi de... Voilà, de marquer l'esprit de cette jeunesse qui vient voir, voilà, en vrai, on va dire, leurs idoles. Et voilà, et l'énergie qui sort de la scène, la musique à fond, l'esthétique, la posture scénique, tout ça, ça influence aussi ces jeunes, voilà, qui ont 15, 16, 17 ans et qui vont essayer, voilà, de reproduire un peu ce qu'ils ont vu. Voilà, le concert des Ramones, c'est... Et des... Alors, je vous raconte pas tout ce qui s'est passé. Ils ont failli pas jouer, etc. Bon, voilà, il y a plein de choses. Hein. Et pour vous dire aussi que les concerts qui sont plus ou moins, dans les grandes villes, hein, Le Havre, Rouen, il y en a un peu à Caen, même s'il n'y a pas beaucoup de salles. Eh bien, quand on avance dans le temps, eh bien, ils vont se diffuser, ce qu'on parlait tout à l'heure, le punk des champs. Hein. Vous avez ici le festival punk de Port-Bail. Alors, si vous connaissez Port-Bail, c'est 2500 habitants. Hein. Et donc, vous avez un festival punk en 85 qui est organisé par les gens de Cherbourg, hein, vous a montré tout à l'heure, où vous avez, voilà, la souris déglinguée, les dames, vous avez les BRU, vous avez les flics, vous avez les trotskites, voilà, dans un patelin, dans un champ, voilà, où il y a vraiment une émulation autour du festival pour avoir interviewé un des jeunes qui a été... qui a assisté au concert, voilà, c'est la première fois qu'il voyait des crêtes à Port-Bail, vous voyez. Donc ça marque aussi Lisieux, voilà, qui va devenir pendant une année la capitale du rock indépendant avec OTH, avec les BRU, avec Ludwig, avec l'Oscario, enfin tout le courant, ce qu'on appelle le courant rock alternatif. Il y aura deux concerts seulement, parce qu'après ça va être interdit, donc la ville ne voudra plus de concerts. Donc vous voyez que ça s'essaime aussi au niveau, on va dire, plus local, hein. Et donc, on retrouvera, bien évidemment, après, dans d'autres lieux, dans des petites salles ou même dans d'autres MJC. Autre particularité, c'est vraiment la proximité anglaise. Donc, la proximité anglaise fait que, déjà, quand vous habitez Le Havre ou Rouen ou à côté, voilà, sur la côte, vous pouvez capter la BBC. Donc, vous pouvez écouter les émissions de John Peel qui diffusent les premiers 45 tours de Peel. Et on peut les enregistrer sur des cassettes. Donc, voilà. Donc, il y a un lien, déjà, avec ce qu'on écoute en Angleterre. C'est aussi surtout la possibilité via Le Havre et le ferry, ensuite Cherbourg, hein, via le ferry, il y a Dieppe, mais Dieppe c'est New Haven, d'aller directement pour un coût modique, hein, aller en Angleterre, donc via Portsmouth et ensuite Londres, pour voilà, assister à des concerts, pour aller acheter des 45 tours, pour aller dans les boutiques. Donc là, ce sont les photos qu'on m'a données, donc d'un musicien du groupe Falkland, hein, de Sanerville, qui a pris les photos quand il est allé, voilà, en Angleterre. Donc il avait 15 ans. Hein, et donc là, c'est les années 83-84. Donc voilà, on va dans les magasins de disques, on va au Marquis pour essayer d'écouter. Donc il y a vraiment cette proximité anglaise qui fait qu'on retrouve vraiment le voyage un peu, on pourrait dire, initiatique ou le pèlerinage. Hein. On va à Londres voir ce qui se passe au niveau... Alors punk, ensuite punk hardcore, etc. Mais ça fait partie, on va dire, du pèlerinage. Il faut y aller au moins une fois pour voir ce qui se passe réellement. Donc voilà, cette proximité, elle est très importante. Hein. Autre moyen de diffusion, j'en avais parlé un petit peu, c'est le rôle des médias locaux. Médias locaux, on va dire, très local aussi, parce que là, je vous parle, là, c'est un article de Paris-Normandie. Donc les médias locaux vont essayer d'écrire, de comprendre ce qu'est le punk. Voilà. Alors on ne parle pas forcément de punk, on va parler de New Wave, on va parler de Nouvelle Vague, On va parler, voilà, le mot punk, il n'est pas souvent utilisé hein, dans ses premières années, donc on a du mal à le définir, hein, qu'est-ce que c'est. Et donc, voilà, la presse ici, comme Paris-Normandie, hein, bah, fait plutôt des articles élogieux par rapport au concert des Ramones, pourquoi ils les présentent, voilà, qui ils sont, comment ils jouent. C'est la même chose, par exemple, avec le concert des Stranglers, qui a eu lieu en 1976, on va, voilà... On va les présenter, on fait tout un compte-rendu, on met des photos. Donc voilà, c'est aussi un moyen de diffuser auprès du lectorat populaire hein, ce qu'est... quand vous lisez par exemple Le Havre Libre, hein, pour l'avoir consulté, sur tous les numéros, vous avez au moins un encart sur un concert, sur voilà, ce qui s'est passé au Havre. Puisque Le Havre, vraiment, il y a une vitalité autour voilà, de ces concerts. Donc il y a Ouest France aussi hein, qui diffuse auprès du grand public. Et puis vous avez aussi la presse locale qui va s'intéresser aux groupes locaux. Donc là, pareil, il y a vraiment une effervescence. Voilà, ça c'est un... Alors, on voit pas tout, mais bon. C'est un concert d'Action Joe, un groupe méconnu hein, qui a duré voilà, 76 à 80. Qui se passe à Pont-Audemer. À Pont-Audemer, c'est un tout petit village à côté de Rouen. Hein. Et vous avez deux articles, il y a même trois articles sur le groupe, puisqu'il organise un concert sauvage à Pont-Audemer. Hein. Et le journaliste, ben voilà, merci Action Joe, les punks ont envahi la ville, on met vraiment en avant. Alors même, il y a un peu de critique, hein, ils jouent un peu trop fort, bien évidemment. On ne comprend pas toutes les paroles. Mais on retrouve ce phénomène de mise en avant des groupes locaux. Alors, c'est pareil pour Lisieux, c'est pareil pour Caen, où il y a des encarts dans Ouest France, sur Bye Bye Turbin, par exemple, une demi-page en 77, etc., avec des interviews. Etc. Donc la presse, voilà, elle... alors pourquoi ? Parce que c'est peut-être mettre en avant aussi les groupes locaux, hein, voilà, les jeunes du cru. Hein. Donc voilà, il y a toute cette presse vraiment très locale qui édite un certain nombre d'articles sur ces différents groupes. Autre médias, ce sont les radios. Alors, avant les radios libres et avant, voilà, 81, vous avez, alors, en Normandie, une radio qui est FR3 Radio Normandie. Et cette radio, elle est basée à Caen, sur le bassin Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent, sur une péniche. Et donc, par exemple, c'est là qu'a commencé Henri Sagnier, hein, qui est parti à la retraite il n'y a pas longtemps. Et donc, sur cette péniche, eh bien, il y a des émissions de radio. Donc, elle est créée en 78. Et vous avez un animateur qui s'appelle Gogo, qui lui va créer une émission qui s'appelle La musique dans la peau. Et lui, le but, c'est de diffuser les groupes locaux. Et donc, alors ils sont pas très nombreux non plus en 78. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il invite les groupes, ils enregistrent en live 5-6 titres qui sont enregistrés, et la semaine d'après, il les réinvite pour les interviewer, pour passer des morceaux. Et donc, ce sont les bobines de ces interviews et de ces lives ont été récupérés justement par le label Mémoire Neuve. C'est pour ça qu'ils ont pu rééditer un certain nombre de groupes. Mais donc, Radio Normandie, elle diffuse aussi sur tout le territoire. Hein. Donc ça permet, alors l'émission, voilà, c'est une heure, mais ça permet aussi pour ces jeunes groupes d'avoir une espèce de visibilité un petit peu sur le territoire. Et ensuite, bah, forcément, ça va être suppléé par les radios pirates, puis ensuite les radios libres. Alors là, j'ai pris quand, parce que celle que je connais le mieux. Donc vous avez une des premières, c'est Radio UHT, qui commence en 1982. Et pourquoi elle est importante, Radio UHT ? Parce que Radio UHT va éditer deux compilations. Et sur les deux compilations, vous trouvez trois groupes punk. Avec des groupes de rock, avec des groupes New Wave, etc. Donc ça permet à des jeunes groupes qui sont inconnus d'être présents sur ces compilations. Donc ils enregistrent dans un studio, etc. Donc UHT va disparaître. Hein, et la grande radio qui perdure encore aujourd'hui, alors elle ne s'appelle pas Radio 666, elle s'appelait au début Radio pour tous, c'est devenu 99 FM, puis ensuite c'est devenu aujourd'hui la radio rock sur Caen, c'est Radio 668. Et donc Radio 668, ou 99 FM, ce qui est intéressant, c'est que le créateur de cette radio-là, c'est aussi celui qui est responsable des animations et de la programmation des concerts à la MJC. Donc lui, son objectif, c'est on organise des concerts et on fait passer les jeunes groupes sur ma radio. Autre point sur les médias, je vous en ai parlé, c'est l'émission Rockin' Chair, voilà, l'appel au groupe en 1981. Hein. vous êtes groupe de rock, vous voulez passer à la télévision, vous envoyez une cassette, un contact, et vous pourrez peut-être passer sur l'émission Rockin' Chair avec Jean-Loup Janer. Donc vous aurez un certain nombre de groupes locaux, alors pas que de punk, il y en a peu, surtout des groupes de rock, voilà, qui vont passer et jouer en playback, voilà. Vous pouvez visionner hein, sur YouTube, Rockin' Chair, voilà, on peut voir un certain nombre de groupes. Ça va bien sûr être supplanté par les fanzines, même s'il y a des premiers fanzines en 77 ou 78, surtout à partir des années 80, où un certain nombre de fanzines vont se créer. Alors les Iroquois en folie, Anthrax, Aliénation, donc vous avez Valérie ici qui a créé le fanzine Aliénation, qui est le fanzine du Havre, donc à partir de 80 ou 82. Hein. Donc voilà, donc les fanzines, alors bon, on pourra en parler, mais voilà, les fanzines, par exemple, Aliénation, voilà, au Havre, c'est un peu, hein, on critique un petit peu les dinosaures présents, voilà, les groupes, voilà, il n'y a pas de culture punk au Havre, alors qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'organiser des concerts, etc. Donc les fanzines, voilà, vont suppléer un petit peu ces médias, on va dire, traditionnels. Ensuite, vous avez quelques lieux emblématiques, hein, même si voilà, ça va changer, mais à Caen, la salle punk ou la salle punk rock, c'est la MJC d'Hérouville, jusqu'en 92, hein, où tous les groupes punk français vont venir ici. À Rouen, c'est le Chartreux Studio 44, qui devient le Studio 44. Au Havre, c'est la salle Franklin, la salle François 1er et le Clegg de l'Heure, hein, qui est l'ancienne dénomination des maisons de quartier. Et donc, tout ça, voilà, ça participe aussi à la diffusion et à la formation de différents groupes. Hein, la première vague, donc, vous voyez, au Havre, il y a en gros quatre groupes. À Rouen, bien évidemment, les Olivenchats, mais il y a d'autres groupes. Et à Caen, on voit bien qu'il y a aussi, peut-être, par rapport aux deux autres villes, une émulation un peu plus importante sur le punk. Je vais vite. Donc, voilà quelques photos. Donc, ça, c'est Bye Bye Turbin. Ça, c'est la seconde vague. Cette groupe, c'est Hateful au Havre. Ça, c'est les Vermines à Rouen. Ça, c'est Feuclan, le groupe de Saint-Nervy, le petit patelin à côté de Caen, hein, qui font quelques concerts. Et donc, pour un peu terminer, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? C'est un peu tout ce que je vous ai dit. Comment on est passé du punk urbain aussi au punk des champs? Comment ça s'est diffusé à la campagne? Comment on a aussi une certaine distance vis-à-vis du punk parisien, hein, très critiqué, très poseur, très frimeur. Donc il y a des frictions, hein, quand on écoute un peu, ça se passe mal des fois quand ils jouent ensemble. Hein. La pratique du do-it-yourself, hein, on l'a dit tout à l'heure, dès les premières générations jusqu'à aujourd'hui, cette pratique d'organiser des concerts, fabriquer un certain nombre d'affiches. Peu de groupes, mais beaucoup de public, hein, c'est ce qui ressortait aussi. Peu de concerts car pas de lieu pour jouer, donc difficulté de trouver des salles pour jouer, parce qu'une fois qu'on joue et que ça se passe mal, c'est terminé, on peut plus jouer. Une certaine même rivalité de clocher entre Rouen et Le Havre, parce que Le Havre c'est plutôt la capitale, la cité populaire, docker, etc., culture très rock'n'roll, et Rouen qui est plutôt celle la bourgeoise, la rive droite, etc., les dogs, voilà. Collaboration par contre entre les groupes. On voit un certain nombre de réseaux qui se mettent en place. Il y a même des arbres généalogiques, hein, on peut retrouver des arbres généalogiques autour des différents musiciens, des parcours des musiciens. Et aussi la publication de 45 tours, hein, à partir de 77, il y a quelques 45 tours qui sont publiés. Hein. Donc les pistes futures, juste pour terminer, hein, 20 minutes pour exposer deux ans, c'est pas facile. Il y a des choses à creuser, par exemple c'est la Manche et Cherbourg, on a des contacts, j'ai des contacts, donc ça serait intéressant de creuser parce que Cherbourg, l'Angleterre, Cherbourg, Port, etc. Je pense qu'il y a eu des choses, donc il faudrait creuser. L'Orne aussi, Alençon, est-ce que l'Orne, est-ce qu'il y a eu des choses? Oui, il y a eu un groupe, un vieux groupe qui s'appelait Verdun, ça. La question des labels, là je vois parce que, avec Valérie, Trash Record par exemple, qui a édité un certain nombre de disques, les archives de Radio 666 qui demandent à être étudiées, et ça se concrétisa aussi dans on en reparlera cet après-midi, mais avec Estelle, l'organisation d'une journée d'études à Rouen en 2018, souvent en avril 2018, et aussi ce que j'aimerais bien faire, c'est organiser une journée d'études au Havre sur cette question du punk, Donc, il reste quand même beaucoup de, beaucoup de chemin. Merci.